Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. Aujourd'hui, les besoins essentiels, un toit, de l'autonomie et de l'humour. En fin d'émission, c'est Jean Provencher qui va nous présenter le calendrier loufoque pour venir en aide aux personnes autistes. On se questionne aussi sur les campagnes de financement dans le temps des fêtes, dans le cadre de la chronique philanthropique avec Jacinthe Roy. Et on vous présente à l'émission d'autres belles initiatives. Horizon Travail qui ouvre la porte d'employeurs à des personnes ayant une basse vision. Un logement école, une initiative qui va nous être présentée par Marcel Jean du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Formidable projet aussi, 79 logements abordables pour des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou différences intellectuelles qu'on aime dire. Parfois, on rencontre Yves Briand, l'organisme Rêve à nous, pour nous faire visiter, ou presque, sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Rêve à nous, ça évoque des rêves, mais surtout le rêve d'autonomie, bien choisi donc comme nom d'organisation pour celle qui veut favoriser l'intégration des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Pour nous faire part du dernier projet fort inspirant de l'organisme Rêve à nous, Yves Briand, membre du conseil d'administration de Rêve à nous, est avec nous. Bonjour.
Bonjour Benoît.
Merci d'être là pour témoigner de très bel édifice d'un projet qui a vu le jour récemment. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce nouvel immeuble tout juste ouvert là, dans un cycle quartier-ville?
En fait, la particularité de l'édifice en question, c'est qu'on regroupe trois types de clientèle à l'intérieur même de l'édifice, à savoir des adultes qui présentent un diagnostic de déficience intellectuelle légère, mm-hmm. des gens à mobilité réduite mm-hmm. et une clientèle de 55 ans et plus. Autonome, bien entendu.
Ouais.
Donc, ces gens-là cohabitent dans le même édifice de 79 logements. Et il y a une très belle entente entre tous ces gens-là.
Ah, c'est magnifique. Puis en plus, c'est rare à Montréal, les logements qui sont accessibles hein, pour les personnes à mobilité réduite. Il y a autre chose aussi qui est important. Ce sont des logements abordables.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était un des objectifs, la mission, dans le fond, de Rêve à nous, c'était d'offrir à des gens qui ont un loyer modique un revenu modique, des logements abordables. D'ailleurs, 52 des 79 logements du complexe appartiennent à un organisme, en fait, appartiennent à l'organisme Rêve à nous et bénéficient de subventions de la Société d'habitation du Québec pour s'assurer que ces gens-là ne paient jamais plus que 25 % de leur revenu pour le loyer.
Oui, donc c'est vraiment des places subventionnées. Là.
Tout à fait subventionnées. Mm. Ça permet quand même à 52 personnes de bénéficier de subventions.
C'est excellent.
Très, très bien accueilli. Ben et oui. La demande d'ailleurs était très forte pour ce genre de logement-là. Malheureusement, on était dans l'impossibilité de répondre à la demande de tout le monde.
Ben oui.
Mais on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait.
Vous avez déjà une liste d'attente, c'est ça que vous
avez dit? On a déjà une liste d'attente pour les gens de 55 ans et plus. On a une liste d'attente également pour les gens à mobilité réduite. Mm-hmm. Et on a une liste très importante de gens qui présentent une déficience intellectuelle légère. Il y a déjà 72 noms encore sur la liste. Mm. Donc, le travail n'est pas fini pour nous.
J'aimerais vous poser comme question maintenant, pourquoi vous êtes impliqué dans ce projet-là spécifiquement?
Bien, au départ, c'est que mon épouse et moi, on a un garçon qui est déficient intellectuel léger. Mm-hmm. Comme tout parent qui a un jeune déficient intellectuel léger, on se préoccupe de son avenir.
Ouais.
On se dit, quand on sera plus là, qu'est-ce qui va arriver avec le jeune? Donc, pour nous, on avait déjà entendu parler dès 2006 de Rêve à nous. Mm. On avait déjà inscrit notre enfant sur la liste d'attente pour qu'il puisse obtenir un logement à prix abordable et qu'il obtienne aussi du soutien à domicile. Mm. Et on a espéré pendant longtemps que le projet se réalise, parce que le projet a pris quand même 10 ans avant de se réaliser, et qu'on puisse s'amener et dire « OK, mission accomplie, notre jeune vit de façon autonome
ouais. ».
Et a les services nécessaires pour assurer son avenir.
Ça vous prend par le cœur, ce projet-là. Je vous vois ému.
Oui, beaucoup.
Ouais, ouais. Est-ce que vous auriez imaginé que c'était possible de pouvoir voir votre fils autonome dans son appartement qui est accommodique?
Oui, on pensait qu'il serait à mesure de le faire
ouais.
parce qu'on trouvait quand même qu'il se débrouillait relativement bien. D'ailleurs, il se débrouille bien dans la vie, même sans support. Il réalise des choses que même des fois, on est surpris de voir jusqu'à quel point ces adultes-là peuvent être autonomes et être capables de réaliser des choses importantes dans la vie. On a peut-être tendance des fois à trop les protéger.
Les couver, peut-être.
Les couver énormément, ce qui n'est pas une bonne chose à faire. Et plutôt leur lancer des défis. Puis on est agréablement surpris. D'ailleurs, notre garçon vit depuis 2 ans maintenant dans son appartement. Il est très heureux. Il a sa gang parce qu'il y en a quand même 25 comme lui qui habitent la résidence. Fait qu'il il a son groupe d'amis. Ils ont leurs activités ensemble. Il fait partie d'une troupe de théâtre. Oui, il a même participé à la série Ma gang de malades qui était...
C'est un des comédiens de Ma gang de malades.
Ma gang de malades, produit par KO TV.
Oui.
Puis ils sont venus chercher justement parce qu'il était dans une troupe de théâtre, puis ils cherchaient des gens, puis ils l'ont sélectionné. Puis, fait,
ça doit être un joueur de tour, donc.
un petit peu. C'est sûr, c'est un bon vivant. Là. Il est agréable, vraiment agréable à vivre. Puis... il est à l'aise avec ça, ce genre d'activité.
Je suis touché de voir, en fait, vous portez une belle admiration pour votre fils. Il faudrait qu'il y ait plus de regards comme vous, des regards de fierté, puis qui veulent donner l'autonomie à ces personnes.
Bien, il y en a beaucoup. Puis ce qu'on fait, entre autres, à Revano, c'est qu'on a des ateliers qui sont organisés, justement, d'autonomie, qui sont non seulement pour les jeunes adultes qui ont des déficiences intellectuelles, mais également pour les parents, pour justement les réveiller face à ça, aux besoins d'autonomie de ces jeunes-là, et de leur faire prendre conscience que, justement, faut leur permettre de réaliser leurs rêves et arrêter peut-être de les couver davantage. Puis aussi également permettre à ces jeunes-là de prendre conscience du travail nécessaire pour réussir à vivre en appartement de façon autonome. Fait que c'est un long cheminement, mais on offre également ce genre d'outils-là pour les aider.
OK. Donc, pour certaines personnes, en tout cas pour les personnes qui ont déficience intellectuelle, Revano est là pour offrir des services dans les résidences.
Oui.
Même si c'est un appartement où ils sont autonomes, là, ils ne sont pas supervisés là, à 100%, ils sont là de manière autonome.
Oui, ils sont à la base autonomes.
OK.
Il y a quand même un intervenant qui, à l'occasion, peut venir vérifier, s'assurer que tout fonctionne bien. Tout dépendant des besoins de chacun. Bien, c'est sûr que dans le temps, la fréquence peut être différente d'un à l'autre.
Ouais.
Mais ils peuvent compter sur quelqu'un qui, s'ils sont mal pris, plutôt que d'appeler papa puis maman, bien, ils appellent l'intervenant. Puis c'est le but visé, là, pour que couper finalement le cordon ombilical une fois pour toutes, puis qu'ils fassent leur vie, puis au besoin qu'il y ait quelqu'un qui va les aider.
En fait, vous avez fait plus qu'un cadeau de père. Là. Vous avez contribué à ce que plein de gens comme votre fils... gagne cette autonomie-là grâce à ce projet-là dans lequel vous êtes impliqué.
Inévitablement, par la force des choses, à partir de 2006, on s'intéressait à l'organisme.
Est-ce que c'est un modèle, vous pensez, par exemple? Je sais que vous êtes là depuis 2006 à Revano, mais est-ce que vous trouvez que c'est un modèle, ce type de maison-là? Il devrait en avoir d'autres?
Absolument, absolument. D'ailleurs, on espère de tout cœur de pouvoir en réaliser un deuxième, un troisième, un quatrième. La demande est tellement importante. Puis à chaque fois qu'on rencontre des parents nous disent « Mon Dieu, dépêchez-vous, faites-en d'autres. Il y a tellement de besoins. On a tellement hâte de pouvoir bénéficier de ces services-là. On dit, écoutez, on fait notre possible. Là.
Mais surtout que c'est quand même une alternative beaucoup plus intéressante que quelque chose comme un CHSLD ou un milieu plus fermé. Là. Les gens peuvent faire les choix que tout humain a envie de faire dans sa vie.
Oui, parce que c'est une vie normale qu'ils mènent.
Ouais.
Ils sont vraiment dans une résidence. C'est pas un ghetto. Pas du tout. Là. Ils vivent avec des gens qui ont mobilité réduite, donc ils sont confrontés à la réalité de la vie. Là.
Ouais.
Et avec des gens de 55 ans et plus, là. Fait qu'ils sont dans un milieu où ils développent leur autonomie. Ils sont vraiment intégrés dans un milieu de gens et de cultures différentes, d'ailleurs, parce que les résidents sont de cultures différentes.
Ça a l'air que vos potlucks sont très populaires.
Les potlucks sont très populaires, entre autres. Les gens découvrent plein de plats très intéressants.
Bon, au moins, mangeons ensemble. Donc, pour plus d'informations sur le porteur de ce rêve d'inclusion, rendez-vous sur le site rêveanou.org. Ça, c'est le site de l'organisme qui porte le projet. Merci beaucoup, Yves Briand, membre du conseil d'administration de Revano.
Ça m'a fait plaisir.
Au plaisir.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd et s'avoue, Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Tout le monde veut la vie en rose, même Ima qui réinterprète ce grand succès d'Édith Piaf sur un air assez jazzé. Avec nous, pas seulement Rêve à nous, mais bien sûr Luc Labbé, directeur général d'Horizon Travail. Donc, vous le savez, tout au long de la vie, on peut voir survenir des situations de handicap. On doit s'ajuster comme société, comme employeur. Rappelons qu'une personne sur trois présente des limitations fonctionnelles et le travail nous accompagne longtemps dans notre vie. Alors, bon, Luc Labbé, directeur d'Horizon Travail est avec nous pour en parler. Bonjour, M. Labbé.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Ben, c'est un grand plaisir. D'entrée de jeu, je vous demanderai, M. Labbé, on a souvent parlé de SEMO, Service externe de placement, pour qualifier le type d'organisme que vous êtes. Il y a eu des changements récemment. Pouvez-vous nous expliquer ça?
Bon, écoutez, le changement, c'est un changement de nom. Maintenant, notre dénomination sociale est Service de placement Horizon Travail.
OK.
Parce que l'acronyme Service externe de main-d'œuvre est moins utilisé. De toute façon, il faut parler nos services, il faut vraiment parler au sens de qui est compris par Emploi Québec, là, à travers leurs programmes et leurs mesures. Nous sommes un service spécialisé de main-d'œuvre. Donc, l'acronyme, vraiment, maintenant, c'est SSMO.
SSMO, voilà.
Ouais, mais nous, on préfère dire service de placement horizon travail parce que c'est aussi, et ça va être en lien avec la thématique, c'est aussi beaucoup plus facile de faire des communications avec des employeurs lorsqu'on a ce genre de nom-là.
Mm-hmm. Bien évidemment, c'est beaucoup eux, vos interlocuteurs. D'ailleurs, vous pouvez nous le dire. Qu'est-ce que vous faites exactement chez Horizon Travail?
Bien écoutez, nous, essentiellement, on est une organisation non lucrative qui signe des ententes de services avec Emploi Québec, le ministère de l'Emploi. Nos services sont admissibles aux clientèles de personnes handicapées, nommément des personnes handicapées visuelles, mais aussi des personnes qui ont un diagnostic de troubles de santé mentale. Mais pour en rester aux personnes qui ont un handicap visuel, qui est notre clientèle historique, là, notre mandat essentiel, c'est de les soutenir dans leur démarche d'intégration et de maintien en emploi, et aussi, de façon corollaire, l'aide, le soutien aux employeurs, ce qui fait que ça permet plus d'ouverture, plus de réceptivité des employeurs.
Bien. Et donc, c'est beaucoup plus large que seulement un service de placement.
Oui, oui, tout à fait. Parce que, voyez-vous, une des problématiques importantes sur le marché du travail, c'est que les employeurs ne sont pas utilisés ou très rarement outillés pour faire de l'intégration d'une personne qui a des incapacités, d'autant plus l'incapacité visuelle, parce que là, on parle à la fois d'adaptation d'environnement de travail pour éliminer des situations d'handicap, mais on parle aussi d'un plan d'accommodement, parce que dans la majorité des cas, l'adaptation, c'est pas suffisant. Ça prend aussi un plan d'accommodement qui vient complémenter l'adaptation.
Donc, en fait, quand on parle d'adaptation, on pense à des technologies, on pense à l'espace de travail, puis l'accommodement, c'est peut-être parfois même changer le descriptif de tâche, aller un peu plus loin.
Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on regarde avec l'employeur, parce que voyez-vous, là, l'adaptation, on parlait de technologie, prenons l'exemple d'une personne qui utilise les technologies comme la télévisionneuse ou le grossissement de caractère à l'ordinateur. Mm-hmm. On s'entend que sans ces adaptations-là, la plupart du temps, l'autonomie au niveau des activités, elle est à zéro.
Ah oui.
Alors, quand on introduit ces adaptations-là, mais l'autonomie passe de 0 à 50 % et non pas de 0 à 100 %. Par exemple, la vitesse de lecture d'une personne qui n'a pas de basse vision, qui n'a pas d'atteinte visuelle, ça se situe en moyenne à plus ou moins 200 mots minute, alors que les tests ont démontré qu'avec l'utilisation des adaptations, les meilleurs rendements, surtout avec des équipements comme la télévisionneuse, on se rend à 100 mots minute.
Mm-hmm.
Alors, on voit qu'il reste un écart, malgré qu'on est passé de 0 à 50 % de rendement.
Est-ce qu'on est prêt comme société à accepter que les productivités diffèrent d'une personne à l'autre?
Bien, c'est pour ça que nous, on propose à l'employeur des plans d'accommodement qui permet un aménagement des tâches. On les amène à réfléchir sur, par exemple, le descriptif de tâches, les tâches secondaires, est-ce qu'elles sont essentielles et si oui, lesquelles, pour permettre à la personne de concentrer l'ensemble de son rendement sur l'exécution des tâches principales.
Bien. Et est-ce que les employeurs, en plus de vous avoir, est-ce que les employeurs ont du soutien de la part d'État?
Bien, mais c'est ça. Ça, c'est l'autre chose qui entre en ligne de compte. C'est que nous, on a le mandat ou on a la possibilité de donner accès aux employeurs aux différents programmes que certaines personnes connaissent bien, là, le contrat d'intégration au travail en l'occurrence. Alors, pour que les employeurs puissent avoir accès à ces programmes-là ou à ces aides financières-là, ben c'est nos services qui fait qui présentent les demandes ou les recommandations au ministère de l'Emploi.
Okay. Mais rappelons pour les gens qui nous écoutent que le contrat d'intégration au travail permet d'obtenir des argents, disons, supplémentaire pour venir compenser la zone qui est moins productive, là, due à des incapacités ou autre chose.
Malheureusement, le contrat d'intégration au travail, c'est une mesure qui comporte 12 volets différents.
OK, oui.
Alors, dont le volet qui s'appelle le volet de compensation financière vis-à-vis du soutien au salaire. Là.
Okay.
Ça, c'est un des volets, mais il y a le volet adaptation, il y a le volet évaluation, il y a plusieurs volets qu'on peut utiliser. C'est là que nous, on va voir avec l'employeur si on utilise cette mesure-là, quel est le meilleur volet ou quel est le volet de cette mesure-là qu'on devrait utiliser pour favoriser un rendement au travail équivalent ou qui se rapproche des attentes de l'employeur.
Mm-hmm.
Il y a plein d'autres mesures là, qu'on peut utiliser. Parce que malheureusement, on pense toujours que pour une personne en situation de handicap, les mesures qu'on peut utiliser, c'est celles qui sont spécifiquement dédiées aux personnes handicapées, en l'occurrence le contrat d'intégration au travail, mais c'est pas vrai. On peut utiliser d'autres mesures.
Ben oui, il y a plein d'autres moyens.
Oui, il y a d'autres moyens.
Puis on pourrait les énumérer, on va malheureusement manquer de temps pour le faire.
Okay.
Mais ce qu'on comprend bien, c'est que vous positionnez un peu comme interface entre les personnes puis les employeurs. Donc c'est plus facile pour tout le monde.
Ça agit de façon positive sur la réceptivité des employeurs.
Oui, ils sont sécurisés par votre présence.
Oui, oui, ben c'est parce qu'il faut les comprendre aussi. Hein. C'est l'inconnu.
Oui. Puis c'est pas si compliqué que ça, c'est ce que vous défendez.
Ben c'est ça, mais c'est juste que quand ils comprennent qu'ils ont un soutien et qu'en plus, pour eux, c'est gratuit et que ça leur donne accès à des programmes, ben ils ont cette ouverture-là, ils sont inclusifs.
Ah, vous avez l'argument de vente pour leur vendre l'inclusion. Excellent. Donc, si vous voulez savoir comment, ça ne vous coûte pas une fortune, mais que vous allez être une bonne entreprise, il faut appeler Horizon Travail. On peut vous retrouver sur horizon-travail.org, c'est bien ça?
Ah, c'est ça.
Bon, tout va bien. Merci, M. Labbé.
Mais merci à vous. Joyeux Noël et bonne année 2017 à vous et à vos auditeurs.
C'est gentil. Joyeuses fêtes à vous aussi.
Merci.
Faire la lumière sur les causes du temps des fêtes, avec nous Jacinthe Roy, directrice générale de l'Association des gestionnaires en philanthropie et sa chronique philanthropie. Bonjour Jacinthe.
Bonjour Benoît, vous allez bien?
Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous. Est-ce que la période des fêtes est réellement un bon moment pour solliciter des dons?
Ah oui!
Oui,
là, avec un O-U-I en majuscule.
Oui, vous
en
me surprenez.
Ah oui, c'est important. En fait, novembre et décembre là, sont de loin les deux mois où la générosité des Québécois et des Canadiens est la plus grande.
Mm-hmm.
On s'en doute. Alors oui, il ne faut pas hésiter à demander un don. Là, je vous dis, on arrive à la fin de décembre, il nous reste deux semaines. Il faut profiter des deux dernières semaines de décembre pour solliciter ce dernier don de fin d'année.
Mais pourquoi donc? Mais
oui,
pourquoi donc
en fait,
deux semaines?
Oui, je regardais les statistiques, Benoît, et c'est sûr qu'on a beaucoup de statistiques américaines, mais on peut quand même croire que ça s'applique à nous. Mais 10 % de tous les dons de l'année s'effectuent au cours des trois derniers jours de décembre.
Ah oui.
Donc, 10 % c'est énorme, et c'est les dons qui ont les montants les plus élevés. Donc,
parce qu'ils sont sortis d'un retour d'impôt. C'est pour ça
bien,
aussi.
Toujours, sans doute, oui. Les dons, lorsqu'on est un organisme de bienfaisance, on peut émettre des reçus d'impôt, mais c'est lié, entre autres, à ça. Donc, il faut vraiment qu'on se rappelle là, qu'une demande qui va être bien ficelée, avec un argumentaire bien pensé, va faire appel autant au cœur et au cerveau. Là. Le cerveau, c'est celui qui veut le reçu pour faire un impôt, mais le cœur, c'est celui qui veut faire du bien de votre donateur. Donc, il faut le toucher là, dans cette période de grande générosité et pas passer à côté.
Aux personnes et organismes qui nous écoutent, c'est quoi les meilleures pratiques là, pour aller chercher ce cœur ou cette tête-là des donateurs et donatrices?
Bien, en fait, là, c'est sûr, comme on disait, il ne reste pas beaucoup de temps là, pour réagir. Puis, et une bonne campagne, il ne faut pas se le cacher, là, ça se planifie des mois à l'avance.
Ouais.
Mais il faut se dire que rien n'est impossible. Puis, et tout peut être fait là, à peu de frais, surtout là, en utilisant, bien entendu, la technologie. Donc, je vais vous le dire, aidez votre donateur, rendez-lui la tâche facile quand vous lui faites une campagne. Et comme il nous reste peu de temps, ça va être très important. Donc, est-ce que je voudrais les bonnes pratiques? Là, tout d'abord, on fixe un objectif. Un objectif en termes de nombre de réponses, mm-hmm. ou un objectif en termes de revenus. Et okay. là, comment se baser? Regardez ce que vous avez fait l'année passée. Et avec ce que vous avez fait l'année passée, là, visez plus haut cette année.
C'est classique, c'est utile.
Oui, ensuite, développez votre argumentaire. Et là, je dis souvent ça avec les membres qui nous appellent. développer votre documentaire, faites du storytelling, mais c'est quoi? C'est en fond, de raconter votre histoire.
Ouais.
C'est important de raconter votre histoire. Encore une fois, aidez vos donateurs à comprendre l'impact de vos résultats. Puis on n'est pas en termes de résultats strictement quantitatifs, mais par exemple, si vous êtes un organisme qui fait de l'aide aux devoirs, qui favorise la réussite scolaire, on s'entend. Et vous le faites sans doute très, très bien.
Mm-hmm.
Mais quel est l'impact sur le jeune? Quel est l'impact sur sa famille? Parce que vous touchez le jeune et vous allez toucher la famille. Quel est l'impact à long terme sur la société, entre autres? Un jeune qui a un diplôme secondaire sera sans doute un meilleur citoyen, un citoyen qui s'implique davantage.
Mais moi, j'ai une idée, Jacinthe. J'ai une idée, Jacinthe. En fait, l'organisme qui favorise la réussite scolaire pourrait très bien mettre quelques mots de la mère qui a apprécié, qui a vu les changements, qui voit moins de détresse, qui est plus confiante dans l'avenir. Ça pourrait être un bon moyen, non?
Ça pourrait être un excellent moyen.
Yeah, bon.
Et là, ça revient, et vous touchez, Benoît, en fait, notre dernière chronique où on parlait d'ambassadeur, la maman devient votre meilleur ambassadeur parce qu'elle voit les résultats à la maison de des réussites de son enfant, d'une meilleure estime de lui. Donc, en effet, oui, meilleur on regarde nos ambassadeurs. De cette façon-là, vous allez toucher un plus grand nombre de personnes en parlant de vos réussites. Alors, allez-y.
N'hésitez pas. Et Jacinthe...
N'hésitez pas, oui.
Et Jacinthe, il faut rappeler aux organismes qui nous écoutent que le temps des fêtes, c'est pas seulement le temps de ramasser de l'argent, c'est aussi le temps de dire merci, c'est bien ça?
Oui, c'est très important de remercier une carte de Noël.
Soit
en ligne ou papier, avec un mot personnalisé. Ça fait tellement chaud au cœur. Et vous vous préparez parce que les remerciements et les communications avec nos donateurs, c'est tout au long de l'année.
Ouais.
Donc là, on arrive à un moment où on est dans les bilans, où on veut remercier, on veut souligner la part. Alors, allez-y. Et ça va faire chaud au cœur. Vous ne serez pas dans le quétaine.
Ouais.
Il faut se le dire. Hein?
Ça a vraiment un impact, donc. Ça a un impact, les remerciements à Noël.
Un impact sur votre campagne l'année prochaine.
Ah, bon, merci de nous accompagner comme ça pour faire un meilleur temps des fêtes pour les organismes qui nous écoutent.
Oui, ça me fait plaisir, Benoît. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes à vous et vos auditeurs.
Très agréable d'entendre ça. Merci. Très belle période des fêtes pour vous aussi. Jacinthe Troy est directrice générale de l'APGP.
Merci.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
Vous avez peut-être croisé dans les médias l'histoire de la jeune Laurence Doré qui a une déficience intellectuelle et qui rappelle qu'elle doit souvent se fier à ses parents pour sa vie quotidienne. Elle disait aussi qu'elle avait bien hâte de se débrouiller seule et voilà, des gens l'aident, elle et d'autres, à vivre ce rêve d'autonomie. On a avec nous l'instigateur d'un projet d'école-logement, Marcel Jean, éducateur spécialisé au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour, M. Jean.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Alma, c'est ça?
Exact.
Donc, comment est né ce projet de logement-école, M. Jean?
En fait, moi, je travaillais à l'époque au CRDI Saguenay-Lac-Saint-Jean, CRDI TED Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis arrivé au CIUS il y a environ 4 ans, là, soutien à domicile au CLSC, toujours à Alma.
OK, donc rappelons aux gens qui nous écoutent qu'un CRDI, là, on parle de réadaptation, puis vous êtes passé au domicile des personnes en soutien.
Exactement. J'ai travaillé au CRDI TED Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant environ 28 ans.
Parfait.
Et ici, au CLSC, je travaillais au soutien à domicile et bon, je m'apercevais que, bon, en se promenant d'un domicile à un autre, qu'il y avait des jeunes qui habitaient en appartement.
Mm-hmm.
Puis ces jeunes-là manquaient beaucoup d'habileté au niveau de la vie en appartement, de comment tenir un appartement au niveau budgétaire, au niveau entretien avec le bon voisinage, mm-hmm. au niveau cuisine. Fait que je me suis assis à mon bureau et je me suis dit, bon, il y a sûrement quelque chose à faire pour rayer ce petit problème-là.
Ben oui.
enrayer ce petit problème-là. Puis je savais que à l'époque, le CRDI-TED a un programme Vivre en appartement où le jeune doit résider en appartement pendant plusieurs mois pour avoir les habilités pour vivre en appartement. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais pas nécessairement que les jeunes habitent dans cet appartement-là.
OK.
Alors, j'ai déjà fait des partenariats avec la commission scolaire et je me suis assis avec la directrice adjointe, puis j'ai soumis mon projet de partenariat avec la commission scolaire. Puis par la suite, j'ai joint l'OMH, l'Office municipal d'habitation.
OK. Donc, vous avez mis les acteurs ensemble pour que ça se réalise. Mais donc, qui vous vouliez servir? Les jeunes qui ont une déficience intellectuelle?
En fait, je ne vise pas que les jeunes qui ont une déficience intellectuelle. Je vise tous les jeunes de 18 ans et plus qui ont un besoin particulier, qu'ils soient déficients intellectuels, troubles du spectre de l'autisme ou des jeunes reliés avec une problématique de santé mentale. Je vise tous ces jeunes-là. Et bon, suite à cette réflexion-là avec la directrice, moi, j'avais bien mon projet en tête, mais je voulais que ça coûte pas de sous parce que présentement, avec toute l'austérité et tous les nouveaux programmes, des sous, ils n'en traînent pas dans les budgets de nos directions. Donc, je me suis dit, il faut pas que ça coûte de sous.
Je peux imaginer que votre directrice a voulu voir le montage financier très rapidement, disons.
Non, c'est-à-dire, je ne l'ai pas montré, je l'ai présenté que quand mon projet était fait.
Excellente stratégie, bravo! Vous n'êtes pas juste un bon éducateur spécialisé.
je lui ai présenté parce que ça ne coûtait pas de frais, puis c'était mon objectif. Je ne voulais pas que ça coûte de frais aux jeunes, et je ne voulais pas que ça coûte de frais au CIUS. On s'est assis ensemble, la directrice et moi. Par la suite, j'ai fait une approche au niveau de l'OMH.
L'Office municipal d'habitation.
Oui. Exactement. Puis en présentant mon projet au directeur, je leur ai spécifié que eux aussi, parfois, ils reprenaient des appartements de ce type de jeunes-là, de jeunes avec des besoins particuliers qui, il fallait qu'ils réparent les appartements. Ils savaient qu'il y avait des appartements qui étaient à la limite de l'insalubrité, puis avec plein de petits problèmes qu'on était en mesure de régler en faisant cette formation-là.
OK. Donc, il y avait des intérêts un peu pour tout le monde, c'est ce que vous avez mis en relief?
Pour tous les acteurs, il y avait des intérêts.
OK. Puis ces jeunes-là... Pardon?
La commission scolaire, eux, formait un nouveau groupe, avait un nouveau programme à offrir aux jeunes. Puis l'OMH, elle aussi n'en retirait un parti.
OK. Puis comment vous recrutez les jeunes? On entre déjà dans le projet lui-même. Là. La genèse est intéressante et même un peu ratoureuse. Mais comment les jeunes sont recrutés pour participer avec Logement École?
Moi, j'ai fait le tour des équipes là, de soutien à domicile, soit l'équipe jeunesse, l'équipe de santé mentale, l'équipe des centres jeunesse, la commission scolaire, certaines classes adaptées dont je dessers. Mon ancien employeur, qui est le CRDI, qui avait une clientèle qui ne répondait pas nécessairement à leur programme spécifique, j'offre le service de ce laboratoire école-là. Le jeune n'a qu'à s'inscrire à la commission scolaire, à l'éducation des adultes. Par la suite, entreprend le processus pour les habilités pour vivre en appartement. Il faut dire aussi que c'est un programme qui peut être individuel. Si le jeune, sa plus grosse problématique, c'est au niveau budgétaire, l'enseignant qui travaille dans ce programme-là va travailler plus le budget. Si c'est l'entretien ménager, va travailler plus l'entretien ménager.
OK, donc c'est hautement personnalisé.
Oui. On veut aussi que ce soit, comme c'est des adultes, on veut que ce soit personnalisé à chacun.
Puis, quelle approche vous avez tendance à avoir là, pour aborder ces jeunes-là, pour aborder leurs problématiques, leurs besoins?
En fait, leur problématique en tant que diagnostic est abordée et travaillée par un professionnel de la santé.
Okay.
Ce que l'enseignant travaille avec le jeune, c'est le pédagogique. C'est au niveau de l'enseignement. C'est un programme qui existait déjà la commission scolaire. Eux l'ont adapté à ce type de clientèle-là. Puis par la suite, il y a un professeur. Présentement, on a une cohorte de 5 jeunes qui ont débuté le programme. C'est eux
qui ont mis la table, comme on dit.
Oui, ils ont mis la table. En fait, c'est parti, ça a commencé à la signature du bail avec l'OMH. Ils ont décoré leur appartement. On a eu aussi un partenaire majeur qui est un organisme communautaire de récupération on leur a fait une liste de tout ce qu'on avait besoin pour vivre en appartement. Ils nous ont remis tous les articles nécessaires, là, les meubles. et tous les articles de cuisine.
Okay.
Et par la suite, le jeune fait une partie à l'école. Mm-hmm. Par la suite, il va parfaire ses habiletés en laboratoire. Il n'y a personne qui a un appartement. Il n'y a personne qui réside dans cet appartement-là. C'est un appartement... En fait, on s'en sert vraiment de laboratoire pour parfaire les habiletés.
OK. Donc, c'est plus ou moins l'appartement temporaire. Les gens, ensuite, retournent vers un appartement dit régulier. J'imagine que vous les aidez à ce moment-là aussi.
Ben, en fait, ces jeunes-là, il y en a plusieurs qui habitent encore chez leurs parents. Leur okay. projet de vie, c'est de s'en aller en appartement. Mm-hmm. Donc, on travaille à faire leur projet de vie.
Bon, excellent. Et comme vous entendez peut-être, il m'arrive parfois de tousser. J'avais presque réussi à pas le montrer, mais bon, je m'excuse. J'espère que je vous ai pas dérangé l'oreille.
Non, pas du tout. Non.
Donc, Monsieur Jean, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que les gens, parce que vous en avez croisé beaucoup là, dans votre projet, excusez-moi, donnez-moi un instant.
Oui.
Je perds la voix. Désolé. Donc, est-ce que les gens sont résistants parfois à ce qu'on accepte que ces jeunes-là...
Prenez le temps de prendre une gorgée d'eau.
Je suis content d'avoir un intervenant à ce moment-là de l'émission. Je sens beaucoup d'empathie dans votre voix. Merci.
En fait, c'est des gens qui sont volontaires. Donc, on n'a pas de réticence. C'est un programme volontaire. C'est le jeune qui s'inscrit par lui-même en faisant ses propres démarches. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'offre aux jeunes. On lui dit, bon, écoute, ça pourrait être intéressant pour toi de faire ce programme-là parce que lorsque tu vas sortir, tu vas être en mesure, tu vas tout avoir les aptitudes et les habiletés nécessaires pour vivre en appartement.
OK. Puis vous êtes satisfait des résultats jusqu'à maintenant?
Bien, jusqu'à maintenant, on va avoir une première cohorte qui va sortir probablement, si tout va bien, en mai ou en juin. Mais moi, je pense que... Présentement, il n'y a que du positif là, pour même... Tout à l'heure, vous parliez de Laurence Doré. Laurence s'épanouit dans ce programme-là, puis elle la trouve ça merveilleux, là, parce que jamais Laurence, avec ses problématiques particulières, aurait pensé de partir seule en appartement.
Ouais.
Elle vivait à s'en aller avec une amie, en appartement supervisé, mais partir de son propre chef lorsqu'elle sera prête en appartement, c'était difficile de prévoir ça pour elle.
Pour donner de l'espoir, dans le fond.
Exactement. Puis c'est leur projet de vie. Hein. Mm-hmm. Ces jeunes-là ne se voient pas autre qu'avec leurs parents. Ben, c'est ce qu'on démontre qu'ils sont en mesure de le faire et de bien le faire.
Vous êtes situé dans un CIUSSS, rappelons aux gens qui nous écoutent que c'est un centre interuniversitaire en santé et services sociaux. Donc, vous êtes situé dans un CIUSSS assez large. Hein. Il y a un grand territoire à couvrir. Vous dénombrez à peu près combien de jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont des besoins spéciaux comme ça?
Alors, c'est difficile à évaluer, M. Benoît, car le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean couvre un très,
oui,
très grand territoire.
Oui.
Puis moi, si je me réfère à mon ancien employeur qui est le CRDI, que eux aussi dessert la DI et les TSA, il y a nous ici au CIUSSS, installation CLSC, qu'on dessert les DI et TSA. Moi, je dirais environ à, je ne sais pas, peut-être un 2000, là.
OK.
Mais c'est un chiffre très, très...
Oui, très approximatif, mais
très
je comprends.
Approximatif, oui.
C'est pas grave, on voulait pas parler au directeur de la recherche, on voulait parler à vous qui êtes l'instigateur puis qui avez fait ce projet. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait exporter un peu ce modèle-là au travers de votre territoire?
Moi, je l'espère. J'espère
oui.
qu'on... En fait, moi, je vais offrir ce programme-là. Je sais qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, ici, moi, je suis au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, situé environ à 70 km près de chez moi. Je sais qu'il y a un organisme qui est la SAR, l'Association pour les troubles du spectre de l'autisme. Eux sont en train de faire un projet, l'appartement, là. Mais moi, je vais rentrer en contact avec le président parce que j'aimerais qu'ils fassent cette formation-là avant d'entrer en appartement, qui serait plus facilitant pour eux, là.
Ben oui, puis c'est comme ça parce que les échecs, hein... Quand on quitte la famille qui nous surprotège un peu, quand on a des besoins particuliers, puis qu'on va en appartement, puis qu'on vit un échec, c'est dur pour les jeunes. Fait que vous prévenez ça, au fond.
C'est ce qu'on veut éviter. On veut leur faire vivre des réussites et non des échecs.
Bon. Vous êtes un travailleur positif, content d'entendre ça. Donc, malgré les coupes qu'on a vécues un peu partout, que votre CIUSSS a vécu aussi, vous arrivez avec peu de frais à faire ce projet-là.
Ouais, nous, on va de l'avant. On regarde pas les coupes. Là. Les coupures, ça fait ça fait partie
de vos vies quotidiennes?
De nos vies quotidiennes. Et okay. Ça fait, depuis 30 ans, ça fait partie de nos vies quotidiennes. Mais je veux dire, c'est des choses qui ne nous appartiennent pas.
Ouais.
En fait, nous, on essaie de répondre au meilleur de nos capacités à notre clientèle. Puis on est toujours centré sur notre client.
Bien, écoutez, bravo pour cette initiative, M. Marcel Jean. Écoutez, j'espère que les éducateurs, les autres professionnels vous entendent qui ont envie de faire comme vous.
Bien, ça me ferait plaisir de répondre à leurs questions s'il y a des questions.
Donc, parfait. Alors, je donne vos coordonnées ou à peu près, rappelons qu'on avait avec nous, mais merci, M. Jean. Donc, on avait avec nous M. Jean, qui est éducateur spécialisé, responsable de la liaison des dossiers en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean.
D'octobre entrait dans les maisons à 5 heures du matin, quand les défenseurs des droits de l'homme étaient assis sous les genoux de la police à 5 heures du matin, quand les colombes portaient fusil en bandoulière. Dans un coin de leur cellule, il y avait ceux qui se ruaient sur les barreaux et que les gardiens traitaient de drogués. Il y avait ceux qui hurlaient de peur la nuit. Il y avait ceux qui jeûnaient depuis le début. Demande à la liberté de montrer ses papiers à 5 heures du matin, quand on fait trébucher la justice dans les maisons pas chauffées à 5 heures du matin, quand la raison d'État se met en marche à 5 heures du matin. Il y en a qui sont devenus frissons. Il y a ceux qui ont oublié. Il y a ceux qui serrent encore les dents. Il y a ceux qui s'en sacrent. Il y a ceux qui veulent tuer.
Éric Goulet, liberté surveillée. Parfois, ben, il faut les surveiller, ces libertés qui donnent un libre cours à leur fun. Et c'est le segment fun de cette émission, si vous me permettez. Il y a toutes sortes de moyens qui sont déployés dans le temps des fêtes pour soutenir des causes et aussi pour sensibiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de fun, comme je le disais. Avec nous, Jean Provencher. Bonjour, Jean.
Bonjour.
Et aussi Patrick Tremblay, oui, de l'École de l'humour. Bonjour, Patrick. D'entrée de jeu, est-ce que on ne vous voit pas actuellement à la radio, mais on vous retrouve souvent dans des gags, c'est bien
oui,
ça?
Oui, c'est ça. C'est ma 11e année sur les gags juste pour rire. Donc, oui, je réussis encore quand même à passer incognito à quelques endroits, mais non, Comme les gens qui me croisent de temps en temps me disent, tu es le comédien le plus vu et le moins connu.
Ah là là.
Alors, c'est ça.
Ben, c'est tristement le but d'un comédien.
Ouais, ouais.
Mais pas d'une vedette, là, vous comprenez, mais,
ouais, ouais,
mais le comédien qui se réalise entièrement. Là.
Absolument. Moi, j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Fait que ben moi, oui. C'est ça qui est important pour moi. dans tous mes projets, d'ailleurs.
Puis vous avez... Exactement, oui. Vous faites déjà le pont. Vous avez oui. eu envie de prolonger le plaisir avec ce calendrier loufoque.
Oui.
Expliquez-moi dans ça, qu'est-ce que c'est?
Calendrier loufoque 2017. Alors, en collaboration avec Patrick, on a pris deux personnages que nous, on fait en événement depuis 8-9 ans.
Exact.
Et on sortait d'une fête. Mm-hmm. En fait, on a fait la fête des pompiers à Laval pendant 2 ans. Et là, les gens nous disaient là-bas, parce qu'on était les deux seuls policiers de oui. la fête, c'était oui. tous des pompiers, les gens nous disaient, hey, quand est-ce que vous allez faire un calendrier?
Parce qu'on parlait des pauses langoureuses sur leur camion.
Oui, c'est ça.
Très langoureuses. C'est là que les gens nous ont dit, quand est-ce, à votre tour, vous allez faire votre calendrier? Et... c'est là qu'on a décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là, s'associer avec la cause de l'autisme, parce que ça nous touche. Il y a des gens autour de nous, des familles qui ont des enfants autistes, tout ça, puis il y a encore beaucoup de besoins à combler.
Donc, c'est quoi qui vous appelait en premier l'envie d'être dans un calendrier comme
c'est
les pompiers?
C'est sûr.
Peut-être de non. se retrouver 12 mois par année dans ouais. la cuisine ou dans le bureau d'une personne qui va nous regarder quelques fois par jour en disant « J'ai-tu rendez-vous ce journée-là? » Fait que, il est donc bien drôle, lui.
Mais, oui. mais soyons honnêtes, le jeu est très drôle parce qu'effectivement, il y a comme ces deux corps de métier-là sont si différents puis on a l'habitude de voir le beau pompier et le policier, on s'en amuse un peu plus.
Absolument.
Bon. Fait que vous avez endossé ces personnages-là,
ouais.
Monsieur Patrick Tremblay, Jean Provencher. Pour l'autisme, pourquoi vous avez choisi cette cause-là?
Ben c'est ça. Autour de nous, il y a plein de gens qui ont des enfants autistes. Et plus, mm-hmm. plus on avançait dans le projet du calendrier, on découvrait des nouvelles personnes, des gens. Moi, dans mon environnement, moi, j'anime beaucoup d'événements corporatifs. J'ai un client en moi, ça fait 10 ans que j'anime son congrès. Et tout à coup, quand je me suis mis à parler du projet, il dit... Je suis grand-papa d'une petite fille autiste.
Ah ouais.
Il m'en avait jamais parlé. Mmh. Et les gens n'en parlent pas beaucoup.
On c'est, ça, c'est, pas, c'est ça, c'est pas visible. Tu peux ouais. pas le savoir, tu peux pas le deviner. Et c'est là que les gens nous ont dit aussi qu'ils tournaient déjà avec la Fédération québécoise de l'autisme avec lesquels on est associé. C'est pas une maladie, c'est un état d'être différent. Ouais. Et ça, ils tiennent beaucoup. La spécificité de ça, c'est que c'est un état d'être différent, très important. Puis c'est ça, c'est comme on parlait tantôt, il y a beaucoup encore de besoins à combler. Ils ont des services, puis les familles, ça demande beaucoup d'énergie. Fait que oui. nous, avec le calendrier, si on peut contribuer moindrement quelque peu avec ça, puis on veut revenir, évidemment, notre but, c'est de revenir année après année
ah oui.
pour supporter la cause de l'autisme.
Donc, il y a deux rôles un peu à ce calendrier-là. C'est d'amasser des fonds qui
oui.
vont aider la Fédération
exact.
De l'autisme, mais aussi de sensibiliser.
Absolument.
Bon. C'est invisible, c'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez fait des activités là, dans le cadre de ce calendrier-là avec des personnes autistes ou avec des familles ou est-ce que vous avez rencontré les gens?
On a des autistes qui ont participé au calendrier.
Ah oui, OK.
Oui, ouais, on a Jimmy qui a participé au calendrier. On a Benjamin aussi qui a participé au calendrier, qui est autiste. On a eu la chance de travailler avec Laurent Simon, le joueur de l'Impact, qui lui a...
Qui est autiste?
Ben, ah oui!
On n'a pas le droit de dire ça comme ça.
Non, il y a une petite fille autiste.
Ah, OK, pardon.
Les deux seuls autistes qui ont le droit de parler, c'est moi et Pat.
Ben c'est ça, mais très sérieusement, c'est heureux que vous mettez en lumière ça parce que il y a une très grande présence de personnes autistes. En fait, si je me rappelle bien, même dans la dernière enquête, c'est tout proche du 1%, cette grande famille-là. Puis, il y a des degrés, hein, y a des gens
oui.
ça passe complètement inaperçu. Donc, vous mettez ça en lumière, mais avec un peu de fun.
Absolument.
Exactement. Bon. Puis c'est ça, les gens nous disaient, parce qu'on a fait le salon de l'autisme, tout ça, puis les gens nous disaient, ça fait du bien de mettre de l'humour là-dedans.
Ouais.
Parce que oui, il y a quelque chose de, entre guillemets, de dramatique, mais en même temps, de relativiser tout ça, ça leur fait du bien de dire, bien, à travers tout ça, on s'en sort. On va de l'avant, puis c'est ça, puis on veut faire connaître de plus en plus la cause. C'est ça notre objectif.
Vous avez réussi à convaincre du monde, assez sympathiquement.
Oui.
Je vois pas Boucard Diouf, mais Boucard Diouf
mois
a
juillet,
accepté d'être
juillet.
Juillet, bon. Ouais.
Tu sais, il s'est dit, je vais prendre un mois chaud. Il vient quand même du Sénégal, puis je pense qu'il adore le Québec, mais il s'ennuie des fois.
Oui, mais surtout aujourd'hui, c'est très à propos de parler de juillet aujourd'hui. Ouais. Alors, voilà, il revêt quelques vêtements sénégalais d'origine, on
oui,
peut dire, folklorique presque. Ça prend de la diversité. Ça, c'est le titre qui ouvre le mois.
Eh oui. Ben, en fait, le titre du calendrier, c'est « Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon calendrier? »
OK.
Parce qu'on voulait s'en aller avec une thématique plutôt que de s'en aller avec les mois de bon janvier, on cherche de quoi de chaud, février, c'est le mois de l'amour. Alors, on a dit, non, faut trouver une autre façon d'amener le calendrier. Et on est allé avec ça. Donc, qu'est-ce que ça prend? Et bon, avec Laurent Simon, ça prend une équipe gagnante. Il faut s'entourer de gens. Il faut s'entourer de... Et donc, à chaque page, vous allez retrouver... bon, ça prend une noble cause. On a les enfants. On a la directrice de la Fédération québécoise de l'autisme avec son adjointe.
Et des chiffres.
Oui, des chiffres, parce qu'il y a une espèce de petit...
d'une légende.
Un petit questionnaire, une petite légende qui dit... Parce que si on les regarde comme ça, personne ne peut dire qui est autiste.
Oui.
Comme je disais tantôt, sauf nous deux. mais on s'assume très bien.
Parce
on
s'assume très bien. Autiste et artiste, il y a juste une lettre de
différence. Il y a juste une
lettre.
Ah, OK.
C'est proche.
Mais moi, j'aimerais beaucoup que tous mes camarades autistes soient artistes aussi. Là. Comme ça, on aurait plein de calendriers. Non, mais donc, vous continuez. Et il y a des jeux comme ça un peu à toutes les pages, à toutes les
mois. Il n'y a pas des jeux, mais en fait, à tous les jeux.
Dans le sens où il y a une volonté de présenter quelque chose.
Oui, c'est ça. Bon, ça prend de l'audace. Ça, c'est un petit clin d'œil au calendrier des pompiers.
C'est notre photo la plus sexy.
C'est la plus sexy.
Mais... La camisole est de mise, je vous le dis tout de suite, chez un des deux policiers.
Exactement, très huilé.
Mais
contrairement, et je m'adresse particulièrement aux femmes ou à quelques hommes aussi, si vous achetez le calendrier des pompiers, ça, des fois, tu sais, de le mettre devant ta famille, c'est un petit peu plus gênant. Tandis que notre calendrier... Ben, tu peux l'afficher dans ta cuisine devant tout le monde, devant les enfants, puis c'est fait pour les enfants aussi.
On a accueilli la diversité.
Exactement.
Bien. Et l'huile, c'est l'huile de charge, juste le rappeler, là, pratiquement. C'est un petit peu ça qui... Enfin, bref. Alors, je savais que ça finirait en cabotinage, mais c'est pour ça qu'on vous a invité, je dois vous avouer, parce qu'une émission comme celle-là, il faut respirer.
Et oui.
Comment vous comptez renouveler cette expérience-là? Parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Oui. Vous avez non seulement composé les scènes à chaque fois avec des comédiens ou des personnes, mais il faut le promouvoir, comme vous le faites présentement. Comment vous comptez renouveler ça?
Bien, ça, c'est ça, exactement. Notre but, c'est de revenir année après année. Puis évidemment, c'est de faire comme aujourd'hui, des émissions de radio, télévision, d'apparaître dans les journaux pour faire connaître le calendrier, pour faire connaître notre cause. C'est ça, notre défi principal. L'an prochain, ça va être déjà dès le début de l'année 2017 d'approcher des nouveaux artistes qui veulent participer au prochain calendrier, évidemment. Et puis notre objectif, à moi puis Jean, c'est de revenir année après année, puis de plus en plus qu'à travers le Québec, le calendrier loufoque, on sait que c'est associé à l'autisme et qu'on aime, on veut l'encourager, puis qu'on dit « Hey, c'est le fun, ça met de la couleur dans notre quotidien, les enfants aiment ça », fait que, exactement.
Bon, je vais être obligé de vous poser la question. Oui. Combien que d'argent qui revient à la Fondation? Ça, les gens trouvent ça important.
Bien, et tous les profits s'en vont à la Fondation. Tous les profits. En fait, on a trouvé des partenaires spécialement pour essayer de défrayer le plus de frais possible. Nous, on a porté le chapeau de producteur pour la première fois. C'est quelque chose, gérer tout ça, on se rend compte.
C'est exigeant.
Oui.
Parce que vous ne le faites pas à moitié, soyons honnêtes.
Non, on a fait de quoi de beau. On a livré un beau calendrier. C'est quelque chose de très agréable. Il y a plein de belles personnalités qui ont participé. C'est un beau papier. C'est bien fait. Il y a des belles informations. Il y a un petit concours à l'intérieur.
En plus?
Oui. Il y a une page qui nous a été fournie par elle s'appelle Illustration Coco. Elle nous a fait un dessin à colorier avec nos deux policiers. Les enfants vont pouvoir colorier, le retourner sur la page du calendrier loufoque. Et... Ils vont l'été prochain, notre partenaire principal a décidé d'offrir un week-end de camping de luxe. Alors, on va sélectionner des familles, puis ils vont pouvoir participer.
Ça va donner de l'aile à votre calendrier. Le calendrier, on peut le retrouver où?
On le retrouve un peu partout en magasin, mais en ligne, plus facilement en ligne. Sur calendrierloufoque.com.
Calendrierloufoque.com, c'est ça qu'il faut retenir.
Et attention, exclusivité.
Oui.
Tout à l'heure, sur notre page Facebook, on va mettre un rabais de Noël.
Ah oui.
Donc, on va offrir le calendrier aux gens qui vont l'acheter en ligne, calendrierloufoque.com, avec livraison et les taxes incluses à $12.99
pour un super calendrier de policiers
huilés. Pour une bonne cause. Ouais, monsieur.
Mais surtout pour venir en aide à la Fondation québécoise de l'autisme. Ouais. Très important. Continuez d'en parler. Merci infiniment, Jean Provencher, qu'on retrouve souvent dans les gags, mais un de plus, c'est dans le calendrier. Et Patrick Tremblay, professeur à l'École nationale de l'humour, il faut le rappeler.
Entre autres, oui.
Bon, alors...
on va aller se payer des cours chez vous.
Ben oui, vous êtes les bienvenus.
Vous êtes sympathique et ravissant. Donc, ben comme bon pompier, bien sûr. Alors, cette émission tire à sa fin. Et vous voyez, moi-même, je tire un peu à ma fin. Donc, merci à vous. Merci aussi à Yves Briand de Ravanou, Luc Labbé d'Horizon Travail, Marcel Jean du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean et notre chroniqueuse de philanthropie, Jacinthe Roy. Cette émission n'aurait pas pu être possible sans l'équipe géniale qui la porte, Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien à Liberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications. Ici Benoît Racette, avec une petite grippe pour cette journée de tempête. Et on se retrouve la semaine prochaine, puisqu'éventuellement, oui, éventuellement, malgré la neige, nous allons se faire un accès libre.